Lettre d'un innocent, écrite par Alfred Dreyfus, sixième partie. 1895, 1896, 1897, 1898. Île du Salut. Mardi, 12 mars 1895. Ma chère Lucie, le jeudi 21 février, quelques heures après ton départ, j'ai été emmené à Rochefort et embarqué. Je ne te raconterai pas mon voyage. J'ai été transporté comme le méritait le vil gredin que je représente. Ce n'est que justice. On ne saurait accorder aucune pitié à un traître. C'est le dernier des misérables, et tant que je représenterai ce misérable, je ne puis qu'approuver. Ma situation ici ne peut que découler encore des mêmes principes. Mais ton cœur peut te dire tout ce que j'ai souffert. Tout ce que je souffre, c'est horrible. Je ne vis plus que par mon âme, qui espère voir luire bientôt le jour triomphant de la réhabilitation. C'est la seule chose qui me donne la force de vivre. Sans honneur, un homme est indigne de vivre. Toi, la vérité même, tu m'as affirmé le jour de mon départ être sûr d'aboutir bientôt. Je n'ai vécu durant cet horrible voyage, je ne vis encore que sur cette parole de toi. Rappelle-toi le bien. J'ai été débarqué il y a quelques instants et j'ai obtenu de t'envoyer une dépêche. Je t'écris vite ces quelques mots qui partiront le 15 par le courrier anglais. Cela me soulage de venir causer avec toi que j'aime si profondément. Il y a deux courriers par mois pour la France, le 15, courrier anglais, et le 3, courrier français. De même, il y a deux courriers par mois pour les îles, le courrier anglais et le courrier français. Informe-toi de la date de leur départ et écris-moi par l'un et par l'autre. Ce que je puis te dire encore, c'est, si tu veux que je vive, fais-moi rendre mon honneur. Les convictions, quelles qu'elles soient, ne me servent de rien. Elles ne changent pas ma situation. Ce qu'il faut, c'est un jugement me réhabilitant. J'ai fait pour toi le plus grand sacrifice qu'un homme de cœur puisse faire en acceptant de vivre après ma tragique histoire, grâce à la conviction que tu m'as inculquée que la vérité se fait toujours connaître. À ton tour, ma chérie, de faire tout ce qui est humainement possible pour découvrir la vérité. Épouse et mère, tâche d'émouvoir les cœurs d'épouse et de mère pour qu'on te livre la clé de cet horrible mystère. Il me faut mon honneur si tu veux que je vive. Il le faut pour nos chers enfants. Ne raisonne pas avec ton cœur, cela ne sert à rien. Il y a un jugement. Rien ne sera changé dans notre tragique situation tant que le jugement ne sera pas révisé. Réfléchis donc et agis pour déchiffrer cette énigme. Cela vaudra mieux que de venir ici partager mon horrible situation. Ce sera le meilleur, le seul moyen de me sauver la vie. Dis-toi bien que c'est une question de vie et de mort pour moi comme pour nos enfants. Je suis incapable de vous écrire à tous, car mon cerveau n'en peut plus et mon désespoir est trop grand. J'ai le système nerveux dans un état déplorable et il serait grand temps que cet horrible drame prît fin. Je n'ai plus que l'âme qui surnage. Mais pour Dieu, hâtez-vous et travaillez ferme. Dis à tous de m'écrire. Embrasse tout le monde pour moi. Nos pauvres chéris aussi, et pour toi, mille tendres baisers de ton dévoué mari, Alfred. Quand tu auras une bonne nouvelle à m'annoncer, envoie-moi une dépêche. Je l'attends chaque jour comme le Messie. Mercredi, 15 mars 1895. Ma chérie, comme je ne remets cette lettre qu'aujourd'hui, je viens encore vite un peu causer avec toi. Je ne parlerai pas de mes épouvantables tortures. Tu les connais et tu les partages. Ma situation reste ici la même qu'auparavant. Dis-toi bien que je suis incapable de la supporter longtemps. Il me semble donc difficile que tu viennes me rejoindre. D'ailleurs, comme je te l'ai dit hier, si tu veux me sauver la vie, tu as mieux à faire. Fais-moi rendre mon honneur, l'honneur de mon nom, celui de nos pauvres enfants. Dans mon horrible détresse, je passe mon temps à me répéter mentalement le mot que tu m'as dit le jour de mon départ. Votre certitude absolue d'arriver à la vérité. D'ailleurs, autrement, ce serait la mort pour moi, et à bref délai, car sans mon honneur, je ne vivrais pas. Je ne suis arrivé à surmonter tout que grâce à ma conscience et à l'espérance que vous m'avez donnée que la vérité se découvrirait. Cette espérance morte serait le signal de ma mort. Dis-toi donc bien, ma chérie, qu'il faut aboutir, et le plus tôt possible, à me faire rendre mon honneur. Je suis incapable de supporter encore longtemps cette atmosphère de mépris si légitime autour de moi. De vos efforts dépend mon honneur, c'est-à-dire ma vie. Enfin, l'honneur de nos pauvres enfants. Tu dois donc tout tenter, tout essayer pour arriver à la vérité. Que je vive ou que je meure, car ta mission est supérieure à moi-même. Je t'embrasse comme je t'aime. Alfred. 20 mars 1895. Ma chère Lucie, ma lettre sera courte, car je ne veux pas t'arracher l'âme. Mes souffrances sont d'ailleurs tiennes. Je ne puis d'ailleurs que te confirmer la lettre que je t'ai écrite le 13 de ce mois. Plus vous hâterez ma réhabilitation et plus vous abrégerez mon martyre. J'ai fait pour toi plus que l'amour le plus profond peut inspirer. J'ai enduré le pire supplice qu'un homme de cœur puisse subir. À toi de faire l'impossible pour me faire rendre mon honneur si tu veux que je vive. Ma situation n'est pas encore définitive, je suis toujours encore enfermé. Je ne te parlerai pas de ma vie matérielle, elle m'est indifférente. Les misères physiques ne sont rien, quelles qu'elles soient. Je ne veux qu'une chose dont je rêve nuit et jour, dont mon cerveau est hanté à tout instant, c'est qu'on me rende mon honneur qui n'a jamais failli. On ne m'a pas remis jusqu'à présent les livres que j'ai apportés. On attend des ordres. Envoie-moi toujours des revues par le prochain courrier. Donc, ma chérie, si tu veux que je vive, fais-moi rendre mon honneur le plus tôt possible, car mon martyre ne saurait se supporter indéfiniment. J'aime mieux te dire la vérité, toute la vérité, que de te bercer d'illusions trompeuses. Il faut savoir regarder la situation en face. Je n'ai accepté de vivre que parce que vous m'avez inculqué la conviction que l'innocence se fait toujours connaître. Cette innocence, il faut la faire relater, non seulement pour moi, mais pour les enfants, pour vous tous. Embrasse ses chéris, tout le monde pour moi et 1000 baisers pour toi. Alfred. Comme les lettres seront très longues à me parvenir, envoie-moi une dépêche quand tu auras une bonne nouvelle à m'annoncer. Ma vie reste suspendue à cette attente. Pense à tout ce que je souffre. 28 mars 1895. Ma chère Lucie, j'espérais recevoir ces jours-ci de tes nouvelles. Je n'ai encore rien reçu. Je t'ai déjà écrit 2 lettres. Je ne connais toujours que les 4 murs de ma chambre. Quant à ma santé, elle ne saurait être brillante. En dehors des misères physiques que j'ai supportées et dont je ne parle que pour mémoire, la cause en est surtout dans l'ébranlement de mon système nerveux, produit par cette suite ininterrompue de secousses morales. Tu sais que les souffrances physiques, si douloureuses qu'elles soient parfois, ne sauraient m'arracher aucune plainte, et je regarderais froidement la mort venir si mes tortures morales n'assombrissaient constamment mes pensées. Mon esprit ne peut se dégager un seul instant de cet horrible drame dont je suis la victime, drame qui m'atteint non seulement dans ma vie, c'est le moindre de mes maux, et mieux eût valu, certes, que le misérable qui a commis ce crime m'eût tué que de me frapper ainsi. Mais, dans mon honneur, dans celui de mes enfants, dans celui de vous tous. Cette idée lancinante de mon honneur arraché ne me laisse de repos, ni jour, ni nuit. Mes nuits, hélas, tu peux t'imaginer ce qu'elles sont. Jadis, ce n'était que des insomnies. Une grande partie, maintenant, se consume dans un tel état d'hallucination et de fièvre que je me demande chaque matin comment mon cerveau résiste encore. C'est un de mes plus cruels supplices. Il faut y ajouter ces longues heures de la journée, en tête-à-tête avec soi-même, dans l'isolement le plus absolu. Est-il possible de s'élever au-dessus de pareilles préoccupations et de forcer son esprit à s'égarer sur d'autres sujets? Je ne le crois pas. En tout cas, je ne le puis. Quand on se trouve dans la situation la plus émouvante, la plus tragique qu'on puisse concevoir pour un homme dont l'honneur n'a jamais failli, rien ne peut détourner la pensée du sujet dominant qui la préoccupe. Puis, quand je pense à toi, à nos chers enfants, mon chagrin est indicible, car le poids du crime qu'un misérable a commis pèse lourdement sur vous aussi. Il faut donc, pour nos enfants, que, quoi qu'il arrive, tu poursuives sans trêve ni repos l'œuvre que tu as entreprise et que tu fasses éclater mon innocence de telle sorte qu'il ne puisse subsister de doute dans l'esprit de personne. Quelles que soient les personnes convaincues de mon innocence, dis-toi qu'elles ne changeront rien à notre situation. Nous nous sommes souvent payés de mots et nourris d'illusions. Rien ne peut nous sauver si ce n'est ma réhabilitation. Tu vois donc ce que je ne puis cesser de te répéter, qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, non seulement pour moi, mais pour nos enfants. Pour moi, je n'accepterai jamais de vivre sans mon honneur. Dire qu'un innocent doit et peut toujours vivre, c'est un lieu commun d'une banalité désespérante. J'ai pu le dire et le croire aussi. Aujourd'hui que j'en fais la triste expérience, je déclare que c'est impossible quand on a du cœur. La vie n'est admissible que lorsqu'on peut lever la tête partout et regarder tout le monde en face. Autrement, il n'y a qu'à mourir. Vivre pour vivre, c'est simplement bas et lâche. Je suis sûr d'ailleurs que tu penses comme moi. Toute autre solution serait indigne de nous. La situation déjà si tragique se tend donc de plus en plus chaque jour. Il ne s'agit ni de pleurer, ni de gémir, mais d'y faire face avec toute ton énergie et toute ton âme. Il faut, pour dénouer cette situation, ne pas attendre un hasard heureux, mais déployer une activité dévorante, frapper à toutes les portes. Il faut employer tous les moyens pour faire jaillir la lumière. Tous les procédés d'investigation sont à tenter. Le but, c'est ma vie, notre vie à tous. Voici donc un bulletin bien net de mon état, aussi bien physique que moral. Je le résume. Un état nerveux et cervical pitoyable, mais une énergie morale extrême, tendue vers le but unique qu'il faut atteindre à tout prix, par tous les moyens, la réhabilitation. Je te laisse dès lors à penser quelle lutte je suis obligé de soutenir chaque jour pour ne pas préférer une mort immédiate à cette lente agonie de toutes mes forces, à ce martyre de tous les instants où se combinent les souffrances physiques avec les tortures morales. Tu vois que je tiens la promesse que je t'ai faite de lutter pour vivre jusqu'au jour de la réhabilitation. C'est tout ce que je puis faire. À toi de faire le reste si tu veux que j'atteigne ce jour. Donc, pas de faiblesse. Dis-toi que je souffre le martyre, que mon cerveau s'affaiblit chaque jour. Dis-toi qu'il s'agit de mon honneur, c'est-à-dire de ma vie, de l'honneur de tes enfants. Que ces pensées t'inspirent et agis en conséquence. Embrasse tout le monde, les enfants pour moi. 1000 baisers de ton mari qui t'aime. Alfred. Comment vont les enfants? Donne-moi de leurs nouvelles. Je ne puis penser à toi et à eux sans que mon être tressaille de douleur. Je voudrais t'insuffler tout le feu qui est dans mon âme pour marcher à l'assaut de la vérité, te pénétrer de la nécessité absolue de démasquer la véritable coupable par tous les moyens, quels qu'ils soient, et surtout sans tarder. Envoie-moi quelques livres. 27 avril 1895. Ma chère Lucie, quelques lignes encore pour que tu saches que je suis toujours en vie et pour t'envoyer l'écho de mon immense affection. Quelque grand que soit notre chagrin à tous deux, je ne puis que te dire toujours de le surmonter pour poursuivre la réhabilitation avec une persévérance indomptable. Garde toujours le calme et la dignité qui conviennent à notre grand malheur si immérité, mais travaille pour me faire rendre mon honneur, l'honneur du nom que portent mes chers enfants. Qu'aucune démarche ne te rebute ni te lasse. Va trouver, si tu le juges utile, les membres du gouvernement. Émeut leur cœur de père et de français. Dis bien que tu ne demandes pour moi ni grâce ni pitié, mais seulement qu'on poursuive les recherches à outrance. Malgré une coïncidence parfois terrible, de tourments aussi bien physiques que moraux, je sens bien que mon devoir vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nos chers enfants, est de résister jusqu'à la limite de mes forces et de protester de mon innocence jusqu'à mon dernier souffle. Mais s'il y a une justice en ce monde, il me semble impossible, ma raison se refuse à y croire, que nous ne retrouvions le bonheur qui n'aurait jamais dû nous être enlevé. Je t'écris certes parfois des lettres exaltées, sous l'empire d'impressions nerveuses extrêmes ou de dépressions physiques considérables, mais qui n'auraient pas de ces coups de folie, de ces révoltes du cœur et de l'âme dans une situation aussi tragique, aussi émouvante que la nôtre. Et si je te dis de te hâter, c'est que je voudrais assister au jour de triomphe de mon innocence reconnue. Et puis, toujours seul, en tête à tête avec moi-même, livré à mes tristes pensées, sans nouvelles de toi, des enfants, de tous ceux qui me sont chers depuis plus de 2 mois, à qui confierais-je les souffrances de mon cœur, si ce n'est à toi, confidente de toutes mes pensées. Je souffre non seulement pour moi, mais bien plus encore pour toi, pour nos chers enfants. C'est en ces derniers, ma chérie, que tu dois puiser cette force morale, cette énergie surhumaine qui te sont nécessaires pour aboutir à tout prix à ce que notre honneur apparaisse de nouveau à tous, sans exception, ce qu'il a toujours été, pur et sans tache. Mais je te connais, ta grande âme, j'ai confiance en toi. Je n'ai toujours pas de lettre de toi. Quant à moi, c'est la cinquième que je t'écris. Embrasse tout le monde de ma part. Mille bons baisers pour toi, pour nos chers enfants. Parle-moi longuement d'eux. Alfred. Mercredi, 8 mai 1895. Ma chère Lucie, quoique je ne doive remettre cette lettre que le 18, je la commence dès aujourd'hui, tant j'éprouve un besoin invincible de venir causer avec toi. Il me semble, quand je t'écris, que les distances se rapprochent, que je vois devant moi ta figure aimée et qu'il y a quelque chose de toi auprès de moi. C'est une faiblesse, je le sais, car malgré moi, l'écho de mes souffrances vient parfois sous ma plume, et les tiennes sont assez grandes pour que je ne te parle pas encore des miennes. Mais je voudrais bien voir à ma place philosophes et psychologues qui dissertent tranquillement, au coin de leur feu, sur de calme, la sérénité que doit montrer un innocent. Un silence profond règne autour de moi, interrompu seulement par le mugissement de la mer. Et ma pensée, franchissant la distance qui nous sépare, se reporte au milieu de vous, au milieu de tous ceux qui me sont chers et dont la pensée, certes, doit se diriger souvent aussi vers moi. Fréquemment, je me demande, à telle heure, que fait ma chère Lucie? Et je t'envoie par la pensée l'écho de mon immense affection. Je ferme alors les yeux, et il me semble voir se profiler ta figure, celle de mes chers enfants. Je n'ai toujours pas de lettre de toi, sauf celle du 16 et 17 février, adressée encore à l'île de Ré. Voici donc 3 mois que je suis sans nouvelles de toi, des enfants, de nos familles. Je crois l'avoir déjà dit que je te conseillais de demander à déposer tes lettres au ministère 8 ou 10 jours avant le départ des courriers. Peut-être ainsi les recevrai-je plus rapidement. Mais, ma bonne chérie, oublie toutes mes souffrances, surmonte les tiennes et pense à nos enfants. Dis-toi que tu as une mission sacrée à remplir, celle de me faire rendre mon honneur, l'honneur du nom que portent nos chers petits. D'ailleurs, je me rappelle ce que tu m'as dit avant mon départ. Je sais, comme tu me le répètes dans ta lettre du 17 février, ce que valent les paroles dans ta bouche. J'ai une confiance absolue en toi. Ne pleure donc plus, ma bonne chérie. Je lutterai jusqu'à la dernière minute pour toi, pour nos chers enfants. Les corps peuvent fléchir sous une telle somme de chagrin, mais les âmes doivent rester fortes et vaillantes pour réagir contre une situation que nous n'avons pas méritée. Quand l'honneur me sera rendu, alors seulement, ma bonne chérie, nous aurons le droit de nous retirer. Nous vivrons pour nous, loin des bruits du monde, nous nous réfugierons dans notre affection mutuelle, dans notre amour grandi par des événements aussi tragiques. Nous nous soutiendrons, l'un l'autre, pour panser les blessures de nos cœurs. Nous vivrons dans nos enfants, auxquels nous consacrerons le restant de nos jours. Nous tâcherons d'en faire des êtres bons, simples, forts physiquement et moralement. Nous élèverons leurs âmes pour qu'ils y trouvent toujours un refuge contre les réalités de la vie. Puisse ce jour arriver bientôt, car nous avons tous payé notre tribut de souffrance sur cette terre. Courage donc, ma chérie, sois forte et vaillante. Poursuis ton œuvre sans faiblesse, avec dignité, mais avec le sentiment de ton droit. Je vais me coucher, fermer les yeux et penser à toi. Bonsoir et mille baisers. 12 mai 1895. Je continue cette lettre car je veux te faire part de mes pensées au fur et à mesure qu'elles me viennent à l'esprit. J'ai le temps de réfléchir profondément dans ma solitude. Vois-tu, les mères qui veillent au chevet de leurs enfants malades et qui les disputent à la mort avec une énergie farouche n'ont pas besoin d'autant de vaillance que toi, car c'est plus que la vie de tes enfants que tu as à défendre. C'est leur honneur. Mais je te sais capable de cette noble tâche. Aussi, ma chère Lucie, je te demande pardon si j'ai parfois augmenté ton chagrin en exhalant des plaintes, en témoignant d'une impatience fébrile de voir enfin s'éclaircir ce mystère devant lequel ma raison se brise, impuissante. Mais tu connais mon tempérament nerveux, mon caractère emporté. Il me semblait que tout devait se découvrir immédiatement, qu'il était impossible que la lumière ne se fît pas prompte et complète. Chaque matin, je me levais avec cet espoir, et chaque soir, je me couchais avec une profonde déception. Je ne pensais qu'à mes tortures, et j'oubliais que tu devais souffrir autant que moi. Cet horrible crime d'un misérable ne m'atteint pas seulement en effet, mais il atteint aussi surtout nos deux chers enfants. C'est pourquoi il faut que nous surmontions toutes nos souffrances. Il ne suffit pas seulement de donner la vie à ces enfants. Il faut leur léguer l'honneur sans lequel la vie n'est pas possible. Je connais tes sentiments. Je sais que tu penses comme moi. Courage donc, chère femme. Je lutterai avec toi en te soutenant de toute mon énergie, parce que devant une nécessité pareille, absolue, tout doit être oublié. Il le faut pour notre cher petit Pierre, pour notre chère petite Jeanne. Je sais combien tu as été admirable de dévouement, de grandeur d'âme dans les événements tragiques qui viennent de se dérouler. Continue donc, ma chère Lucie, ma confiance en toi est complète. Ma profonde affection te dédommagera quelque jour de toutes les douleurs que tu endures si noblement. 18 mai 1895. Je termine aujourd'hui cette lettre qui t'apportera une parcelle de moi-même et l'expression de mes pensées profondément réfléchies dans le silence sépulcral au milieu duquel je vis. J'ai trop souvent pensé à moi, pas assez à toi, aux enfants. Ton martyr, celui de nos familles, sont aussi grands que le mien. Il faut donc que nos cœurs s'élèvent au-dessus de tout pour ne voir que le but à atteindre, notre honneur. Je resterai debout tant que mes forces me le permettront pour te soutenir de toute mon ardeur, de toute la grandeur de mon affection. Courage donc, chère Lucie, et persévérance. Nous avons nos petits à défendre. Embrasse frères et sœurs pour moi. Dis-leur que j'ai reçu les lettres encore adressées à l'île de Ré et que je leur écrirai prochainement. Pour toi, mes meilleurs baisers. Alfred. J'oubliais de te dire que j'ai reçu hier les deux revues du 15 mars, mais c'est tout. Cher petit Pierre, Papa t'envoie de bons gros baisers, ainsi qu'à petite Jeanne. Papa pense souvent à tous les deux. Tu montreras à petite Jeanne à faire de belles tours en bois, bien hautes, comme je t'en faisais et qui dégringolaient si bien. Sois bien sage, fais de bonnes caresses à ta maman quand elle est triste. Sois bien gentil aussi avec grand-mère et grand-père. Fais de bonnes niches à tes tantes. Quand papa reviendra de voyage, tu viendras le chercher à la gare avec petite Jeanne, avec maman, avec tout le monde. Encore de bons gros baisers pour toi et pour Jeanne, ton papa. 27 mai 1895. Ma chère Lucie, je profite de chaque correspondance avec Cayenne pour t'écrire, voulant te donner le plus souvent possible de mes nouvelles. Je t'ai écrit une longue lettre dans le courant du mois. Je l'ai remise le 18. Quoique sans nouvelles depuis mon départ de France, toutes les lettres reçues étant antérieures à notre dernière entrevue, j'espère cependant qu'au moment où tu recevras cette lettre, le dénouement de notre tragique histoire se rapproche. Quoi qu'il en soit, je te crie toujours avec toutes les forces de mon âme, courage et persévérance. Les nerfs m'ont dominé souvent, mais l'énergie morale est toujours restée entière. Elle est aujourd'hui plus grande que jamais. Cuirassons donc nos cœurs contre tout sentiment de douleur et de chagrin. Surmontons nos souffrances et nos misères pour ne voir que le but suprême, notre honneur, l'honneur de nos enfants. Tout doit s'effacer devant cela. Courage donc encore, ma chère Lucie. Je te soutiendrai de toute mon énergie, de toute la force que me donne mon innocence, de toute la volonté que j'ai de voir la lumière se faire entière, complète, absolue, telle qu'il la faut pour nous, pour nos enfants, pour nos deux familles. De bons baisers, ô cher petit. Je t'embrasse comme je t'aime. Alfred. Fin de la sixième partie des Lettres d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus.